C'est quoi les objectifs d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage ?
Aucun chômeur aujourd'hui ne planque son indemnité dans les paradis fiscaux.
On a des réformes tous les ans.
C'est toujours les mêmes qui doivent passer à la caisse. Fort avec les faibles, faible avec les forts.
Ce déplacement du président de la République, c'est évidemment une bonne chose.
En cas d'accord global, on peut suspendre tout le processus.
J'espère ensuite que le président de la République ne reculera pas trop.
Nous saluons cette décision de la Cour pénale internationale et nous trouvons d'autant plus dommageable que la réaction de la France soit aussi timide.
On met sur le même plan ce groupe terroriste avec le gouvernement d'un État démocratique.
Il se tient à très grande distance, madame la députée, de la notion de génocide que vous agitez.
Gabriel Attal qui veut faire les poches des chômeurs, une fois encore, le déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, diversement apprécié, et les réquisitions du procureur de la Cour pénale internationale qui divise l'Assemblée. C'est le sommaire de ce numéro 78 du Bourbon de Serge. Un mot avant le générique. Hier mercredi, nous avons franchi la barre des 200 000 abonnés à la chaîne Pure Politique. À vous tous, j'adresse un grand merci. On va continuer et on va faire mieux. En route vers les 300 000. Ce dimanche, Gabriel Attal doit annoncer les contours de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement entend réaliser 3,6 milliards d'économies supplémentaires. Pour y parvenir, il veut durcir les conditions d'accès. Aujourd'hui, pour prétendre à une allocation, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois. À partir du 1er juillet, il faudra avoir totalisé 8 mois. Comme au loto, Gabriel Attal a coché la petite case qui pourrait lui permettre de gratter 3 milliards supplémentaires. La durée d'indemnisation sera réduite si le taux de chômage passe en dessous de la barre des 6,5%. C'est ce que les crânes d'œufs du ministère du Travail appellent la contracyclité. Rien à voir avec le Tour de France, même s'il y a des montées et des descentes. D'ailleurs, pour l'instant, c'est une étape de plat. Depuis le quatrième trimestre 2023, le taux stagne à 7,5%. Les députés du groupe centriste Liotte trouvent que cet acharnement contre les chômeurs commence à bien faire. Ils ont déposé une proposition de loi qui gèle le dispositif existant. Elle sera examinée le 13 juin dans le cadre de leur journée d'initiative parlementaire. C'est ce qu'on appelle une niche dans le jargon de l'Assemblée. Il y a deux jours, mardi, les députés Liotte ont présenté leur texte lors d'une conférence de presse à laquelle participaient les dirigeants des grandes centrales syndicales, la CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC.
C'est dans ce cadre que nous déposons une proposition de loi sur le renforcement du dialogue social et sur le maintien des dispositifs actuels de l'assurance chômage.
Donc l'objectif de cette PPL, c'est simple, elle vise à protéger le principe du calcul de l'indemnisation qui s'applique aujourd'hui et à soutenir l'emploi des seniors. Vous le savez tous, le gouvernement a annoncé ce que j'appellerais un nouveau tour de vis. Le ministère du Travail annonce qu'il fixera lui-même les nouvelles règles d'assurance chômage qui s'appliqueront à partir du 1er juillet 2024. Ce sera donc, depuis le gouvernement Macron, ce sera la cinquième réforme, avec à chaque texte le même objectif, le durcissement. Le durcissement des conditions d'accès.
C'est la cinquième réforme. L'encre de la précédente a eu à peine le temps de sécher. Alors pourquoi changer à nouveau les règles ?
On est à un moment clé et cette PPL du groupe Liotte, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre et elle doit permettre, de notre point de vue, de faire en sorte que tout le monde joue carte sur table. C'est quoi les objectifs d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage ? Est-ce que c'est atteindre le plein emploi ? Est-ce que c'est faire des économies ? Et donc, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il nous faut, un, de la clarté et deux, surtout, de la cohérence politique. On ne peut pas avoir un gouvernement qui nous explique, il y a quelques mois, qu'il faut, lorsque la conjoncture s'améliore, on peut baisser les droits des chômeurs, et aujourd'hui nous explique exactement l'inverse. Donc c'est important qu'il puisse y avoir ce débat public, que nous, en tant qu'organisation syndicale, on pointe ces incohérences et que ça soit débattu au Parlement. C'est éminemment démocratique et ça intéresse bien entendu des millions de personnes.
Bien sûr, en filigrane de cette nouvelle réforme, il y a le sempiternel couplet sur ces feignasses de chômeurs qui se la coulent douce, tandis que les autres travaillent. Tout le monde a un exemple à citer, le cousin de la tante à Jules, le voisin du 12e étage ou le gars d'en face qui se lève tard. Mais cette intériorisation collective du discours libéral est battue en brèche par les chiffres.
Ce qui nous intéresse, c'est la réalité des chiffres, des études de la DARES, des études de l'UNEDIC, des études de l'OFCE, qui nous apprennent que plus de 90% des gens qui aujourd'hui sont au chômage recherchent activement du travail. Et donc, en fait, on met en place des dispositifs pour aller traquer le petit fraudeur. Évidemment, il y en a, mais il y en a probablement beaucoup moins que s'agissant des fraudeurs du fisc, des grandes entreprises qui planquent l'argent à l'étranger, etc., des paradis fiscaux. Que je sache, aucun chômeur aujourd'hui ne planque son indemnité dans les paradis fiscaux.
Cette cinquième réforme pose, a posteriori, la question de l'utilité des quatre qui l'ont précédée. Le gouvernement aurait-il tenté d'enfumer l'opinion? Ce n'est pas son genre, voyons.
Depuis 5 ans, on a des réformes tous les ans. Et la dernière fois, la dernière réforme qui s'applique maintenant, en 2019, on l'a attaquée devant le Conseil d'État et elle n'a pu être mise en place qu'en 2021. Aujourd'hui, dire on fait des réformes pour des réformes, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, alors qui n'est plus nouveau maintenant, disait on va faire une vraie réforme de l'assurance chômage. Alors qu'est-ce qu'on nous a vendu avant? C'était quoi? C'est juste des réformes économiques pour indemniser moins les demandeurs d'emploi? Eh bien non.
Le gouvernement veut faire des économies, mais surtout, il ne veut plus composer avec ces empêcheurs de tourner en rond que sont les syndicats de salariés et le patronat. Où va-t-on si l'on se met à discuter avec les uns et les autres, alors que signer un petit décret mitonné dans le secret d'un bureau de Matignon prend 5 minutes?
Cette accumulation de réformes, elle traduit deux choses. D'abord, un autoritarisme gouvernemental qui veut décider de tout tout seul et qui veut voler l'argent des salariés en reprenant en main l'assurance chômage, les retraites complémentaires, les fonds dévolus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les fonds liés aux aides au logement aussi, que le gouvernement veut reprendre à main sur l'action logement. Donc il y a une remise en cause du paritarisme pour voler l'argent des salariés. Et puis sur le fond, cette accumulation de réformes, bon bah le constat est clair, c'est toujours sur les mêmes comptables, c'est toujours les mêmes qui doivent passer à la caisse, fort avec les faibles, faibles avec les forts.
L'examen de la proposition de loi du groupe Liot débutera le 6 juin en commission. 3 jours avant le vote des européennes. Un agenda qui ne va pas avantager Valérie Hayer, la tête de liste Renaissance, déjà à la peine dans les sondages. Elle n'est plus à sa prix. Emmanuel Macron est donc en Nouvelle-Calédonie pour tenter de recoller la vaisselle cassée. Apparemment, il va falloir beaucoup de colle et de l'extra-forte. Mais le déplacement est quand même salué à gauche.
Ce déplacement du président de la République, c'est évidemment une bonne chose. Il faut aujourd'hui que tout le monde se remette autour de la table. On pourra regretter évidemment que ça soit une forme de désistement du Premier ministre. Ce qui compte, c'est d'abord de lancer un signal fort, que le président de la République montre qu'il est là, qu'il y a une reprise en main au plus haut niveau et surtout qu'il lance les bases d'une mission du dialogue, c'est-à-dire d'acteurs impartiaux qui vont avoir pour tâche de retisser, de renouer des liens pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Reprise en main du dossier, dit Arthur Delaporte. Mais n'allez pas dire à ceux qui étaient en charge du sujet dans les mois précédents qu'ils n'ont rien fait. Philippe Vigier, ancien ministre des Outre-mer dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, conteste le procès en inaction.
C'est faux. Je m'inscris en faux. Ceux qui vous disent ça n'étaient pas autour de la table. J'y étais notamment lorsque j'étais ministre des Outre-mer. C'est pas vrai. Je rappelle que sous François Hollande, il n'y a eu aucun référendum organisé. Ça, c'est la vérité. Vous le savez. Il y en a 3 qui ont été organisés entre 18 et 21. 3. Le troisième, c'est vrai, dans des conditions particulières, puis c'était en sortir de Covid. Et vous vous rappelez que les Kanaks avaient refusé de participer. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de dialogue. Encore au mois de décembre, toutes les parties prenantes sont venues à Matignon. L'année dernière, au mois de juillet, le président est allé en Nouvelle-Calédonie. Je faisais partie de la délégation. Nous sommes allés, nous avons discuté avec tout le monde.
Pour l'ancien ministre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Le projet de loi constitutionnelle permet la poursuite de la discussion jusqu'à la fin de l'année prochaine.
D'abord, sur cette affaire du corps électoral, il faut peut-être rappeler une chose. Si vous lisez bien l'article 2 de la loi, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué que jusqu'à 10 jours avant les élections, 10 jours avant les élections, en cas d'accord global, on peut suspendre tout le processus. C'est indiqué ainsi, hors les élections, elles sont repoussées jusqu'à quand? Le Conseil d'État a donné une date. Novembre 2025. Donc on a le temps du dialogue. Donc cette mission, c'est une bonne décision.
Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir commencé par chercher un accord plutôt que de voter un projet de loi incendiaire? Les Républicains se montrent bien moins confiants. Ils redoutent une reculade du président.
J'espère que ça aura d'abord un effet positif, que ça ramènera le calme. J'espère ensuite que le président de la République ne reculera pas trop sur les engagements qui ont été pris. Notamment, il y a besoin de cette révision constitutionnelle. Voilà, puis j'espère que cette visite ne coûtera pas trop cher aux Français, puisque quand le président se déplace pour résoudre une crise, en général, ça nous coûte quelques milliards, donc juste cette petite précaution.
Olivier Marleix n'a pas été entendu. Le président de la République vient d'annoncer une aide d'urgence pour payer les salaires et la mise en place d'un fonds de solidarité dans les prochains jours pour venir en aide au monde économique. En début de semaine, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a requis des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, ainsi que le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien. La réaction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui reste très factuelle, a réussi à mécontenter les Insoumis et le Rassemblement national.
Nous saluons cette décision de la Cour pénale internationale et nous trouvons d'autant plus dommageable que la réaction de la France soit aussi timide. Vous remarquerez que la France a mis 12 heures à réagir puisque son communiqué date de 23h22 pour saluer timidement les réquisitions du procureur de la Cour pénale internationale, quand par exemple notre voisin la Belgique a fait un communiqué d'une clarté bien plus forte dès 14h09.
Depuis le 7 octobre, Mathilde Panot devrait savoir qu'il vaut mieux prendre son temps pour rédiger un communiqué, un mot en trop ou à l'inverse, un mot absent, et ce peut être le début d'un long chemin de croix. Du côté du RN, on reproche à la diplomatie française d'avoir apporté son soutien à ces réquisitions qui renvoient dos à dos le Hamas et Israël.
On a un soutien à un arrêt de la Cour pénale internationale, réquisition, qui met sur le même plan un groupe terroriste, le Hamas, responsable de plus de 1200 morts le 7 octobre dernier, qui est le plus grand massacre de juifs depuis 1945. On met sur le même plan ce groupe terroriste avec le gouvernement d'un État démocratique. Ça pose véritablement question. On peut, encore une fois, critiquer le gouvernement, l'État d'Israël, mais de l'associer au Hamas, c'est tout simplement indécent et c'est extrêmement lourd d'un point de vue historique.
Côté référence historique, le RN devrait cultiver une certaine pudeur. On pourrait se souvenir qu'il y avait une belle brochette d'antisémites parmi les fondateurs du Front National. L'eau a peut-être coulé sous les ponts, mais quand même. Quoi qu'il en soit, mardi, lors des questions au gouvernement, Stéphane Séjourné a rectifié le tir tout en taclant la France insoumise.
Ces demandes simultanées de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués également de manière assumée. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique Israël qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. Et puis peut-être le quatrième principe, puisque vous l'avez peut-être oublié celui-ci, c'est le principe de rigueur. Vous donnez des leçons de droit et de morale depuis des mois sur cette question. Si vous regardez les propos du procureur, il se tient à très grande distance, Madame la députée, de la notion de génocide que vous agitez politiquement à des fins politiques depuis maintenant des mois.
Au fait, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, c'est pour quand ? Mercredi, 3 pays, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont annoncé qu'ils reconnaissaient à leur tour l'État palestinien, ce qui porte à 146 le nombre de pays s'étant prononcés en ce sens. La France s'honorerait en n'étant pas la dernière à accomplir ce geste diplomatique fort. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche, vous ne manquerez aucun de nos contenus. En particulier, le Tour de la question, l'émission réalisée et présentée par Antoine Etcheto, qui vient de rejoindre l'équipe de Pure Politique. Et oui, on s'agrandit et c'est pour ça qu'on a encore plus besoin de vous. Alors je vous donne rendez-vous sur Donorbox. Merci de nous aider à développer Pure Politique. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express.